Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle l'éternel féminin, la féminité.
Simone de Beauvoir disait « compétence et intelligence, deux mots sans sexe ». Elles sont au sommet du savoir et pourtant les femmes ont toujours du mal à le faire savoir. Manque d'audace, de confiance en soi, sentiment d'illégitimité et parfois, il faut bien l'avouer, femmes oubliées. Je m'appelle Christelle Chiroux et je me bats pour aller les chercher. Elles sont scientifiques, médecins, économistes, sportives, avocates ou historiennes. Elles sont là et bien là. Elles ont des parcours impressionnants et passionnants. J'ai décidé dans ce podcast d'amplifier leur voix. À les écouter, vous ne pourrez plus les oublier. Bienvenue dans Expertes à la Une. Dans ma formation, on m'a appris qu'être à l'heure, c'est déjà être en retard. Cette petite phrase est signée Laetitia Saint-Paul. Elle est restée gravée dans ma mémoire. Aussi, je suis arrivée à l'Assemblée nationale avec de l'avance. À 15h précises, je rencontrais donc la militaire Laetitia Saint-Paul. La députée du Maine-et-Loire me reçoit dans son bureau avec son nouvel uniforme de vice-présidente du Palais Bourbon.
Avant, j'avais un tout petit bureau au dernier étage sous les combles et effectivement, là, vous êtes dans l'aile de la vice-présidence. Comme vous pouvez le voir, et jamais je n'aurais imaginé un jour dans ma vie pouvoir choisir des œuvres d'art pour décorer mon bureau. Ça, je le vis comme un grand luxe.
Et alors, où est-ce que vous dormez? Parce qu'en général, la chambre n'est pas loin forcément du bureau.
Les députés n'ont pas nécessairement une chambre. En fait, certains ont un bureau dormable qui est aménagé comme un petit studio. Donc moi, j'en avais pas et je dormais dans différents hôtels. Donc chaque semaine, je venais avec ma valise et je changeais d'hôtel en fonction des disponibilités. Et depuis que je suis vice-présidente, j'ai une chambre dédiée dans la résidence de l'Assemblée nationale. Donc c'est une structure hôtelière où nous pouvons loger. Et je peux laisser des affaires et je laisse toute ma garde-robe spéciale perchoir. Rien n'est laissé au hasard.
Et c'est quoi alors votre garde-robe spéciale perchoir? Est-ce qu'il y en a une particulière? Vous l'avez choisie?
Alors pour l'anecdote, il y a une cinquantaine d'années, les vice-présidents avaient un uniforme. Et je m'étais fait la remarque que ça devait vraiment être pratique d'être en uniforme puisque ça impose la stature et la fonction. Mais cela n'existe plus et j'ai fait un choix très sobre de tailleur pantalon bleu marine. Donc je crois que j'ai tous les dégradés du bleu marine au bleu anthracite.
Laetitia Saint-Paul, merci de me recevoir dans votre bureau ici à l'Assemblée nationale. Vous êtes militaire d'active et vous êtes également députée La République En Marche depuis 2017. Donc vous êtes à la fois une experte militaire et une experte politique. C'est quoi votre définition de l'experte?
Alors, c'est intéressant parce que quand vous m'avez sollicité pour cette émission Les Expertes, je me suis dit que je passais mon temps à vanter mon côté généraliste. Et pour citer Bacri, on connaît la chanson, la thèse sur les chevaliers de l'an 1000 au lac de Coxigrue, ce n'est pas mon truc. Et ça m'a invité à m'interroger sur la définition de l'expertise, parce que souvent j'ai eu l'impression que l'expertise enfermait. Et j'ai fait le choix, dans mon mandat et dans ma carrière précédente, de me spécialiser sur les questions régaliennes. C'est ce qui me passionne, les enjeux de stratégie, les cartes, le dessous des cartes, les rapports de force. Voilà, je dirais, mon expertise.
Et est-ce qu'il y a une différence entre l'experte militaire et l'experte politique?
Alors, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ponts entre les deux. Et je crois que l'expertise militaire et politique se complètent, puisqu'il y a un enjeu de bien commun, et sur les questions qui m'intéressent le plus, les enjeux de sécurité, sécurité nationale, sécurité internationale, sécurité individuelle. Donc, moi, j'y vois un lien évident.
Alors, on ne vous connaît pas.
Vous êtes donc arrivée à l'Assemblée nationale il y a 4 ans, mais qui étiez-vous lorsque vous étiez enfant ? Vous êtes née en Bretagne avec des parents buralistes. Qui étiez-vous quand vous étiez une petite fille ?
Alors, je vais répondre par une autre question qu'on me pose souvent, ce dont je suis le plus fière. Et je crois que ce dont je suis le plus fière, c'est d'être à la hauteur de la petite fille que j'étais. Parce que j'étais ce mélange peu probable de l'intello. J'adorais lire, j'ai toujours lu tout ce qui me passait entre les mains. Et je partais toujours à l'aventure. Donc, s'il y avait une rivière, je me construisais des chaussures en bois et un bâton de marche pour aller à l'aventure. Et j'adorais les grands espaces. Et c'est pas forcément évident de trouver des fonctions qui combinent et l'aventure et l'aspect intellectuel. Et voilà la petite fille que j'étais, et finalement l'adulte que je suis devenue.
Alors, quel a été votre parcours scolaire ? Donc, vous avez passé votre bac, ensuite vous avez fait une prépa HEC, mais déjà dans une école militaire, je crois.
Oui, alors je suis vraiment une enfant de l'école républicaine. Je sais ce que je lui dois, je me souviens encore du nom de ma maîtresse en CP, Madame Le Guillou. Et effectivement, j'ai fait le choix, parce que très tôt, j'ai voulu faire Saint-Cyr, de rentrer en classe préparatoire aux grandes écoles militaires, à La Flèche. J'ai réussi le concours de Saint-Cyr. Et après, c'est ce que j'explique souvent, c'est qu'un parcours d'officier, nous passons notre vie à nous former, que ce soit en langue étrangère, en formation d'état-major. Et j'ai l'impression, finalement, de ne jamais avoir quitté les bancs de l'école.
Qui est-ce qui vous a donné cette envie d'entrer à Saint-Cyr, puisque vous n'aviez pas de famille dans l'armée, vos parents donc tenaient un bureau de tabac, vos grands-parents, je crois, étaient boulangers. Donc, qui est-ce qui vous a donné cette envie ?
Alors, c'est possible que ça vienne un peu de mon imaginaire familial, puisque j'ai vécu enfant avec mon arrière-grand-père, qui était un ancien poilu de 14. Et j'ai souvenir qu'il y avait tous ces objets d'art de poilu à la maison. Et je pense que inconsciemment, ça a nourri mon imaginaire. Et il y a toujours eu ce fil conducteur de participer déjà enfant aux cérémonies. Et c'est une de mes grandes tristesses, c'est qu'aujourd'hui, les commémorations se font presque à huis clos entre les anciens combattants et les militaires en activité, alors qu'ils sont vraiment tournés vers les Français. Et je crois que tout mon imaginaire a été nourri et c'est devenu une évidence de souhaiter faire Saint-Cyr. Bon, mon choix a été moqué déjà au lycée par la conseillère d'orientation qui m'a demandé si, petite, je voulais être un garçon. Et là, j'ai très tôt su que j'allais affronter quelques obstacles.
Et alors, quels ont été ces obstacles ? À Saint-Cyr, déjà, dans un premier temps, il y en a eu ?
Alors, déjà, en classe prépa, en fait... Dès qu'on fait la trace, quel que soit le domaine, c'est compliqué. Donc, je suis rentrée dans une armée qui venait à peine d'être professionnalisée, puisque la fin de la conscription date de 1996, et je suis rentrée en classe préparatoire militaire en 1999. Donc, en fait, je suis arrivée au tout début de la professionnalisation, avec l'arrivée des femmes, mais pas en nombre. On était 12 dans ma promotion de Saint-Cyr et les garçons pratiquaient l'indifférence courtoise.
12 sur combien ?
Alors à Saint-Cyr, 12 sur 150. Donc voilà, c'était la grande pratique de l'indifférence courtoise. Donc en gros, à 18 ans, les garçons draguent les filles. Dans ma vie, à 18 ans, les garçons ne nous parlaient pas. C'est un autre contact.
Et du coup, vous étiez soutenue entre ces 12 filles ? Vous faisiez corps ?
Pas toujours, parce qu'on était isolés. En fait, on était répartis entre 6 sections. Donc, on se retrouvait à 2 par section. Et l'autre fille de ma section a malheureusement démissionné très tôt, Marion. Et je me suis retrouvée très vite, très isolée. Et d'où le titre « Mission tenir » de mon livre. C'est que coûte... je voulais pas que d'autres décident de ce que j'allais faire de ma vie, à n'importe quel prix.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile à Saint-Cyr ?
De tenir dans cet environnement où tout était fait pour que les filles démissionnent. Et cela dit, le but était à peu près atteint. Je crois qu'un tiers des filles est parti dans les premiers mois.
Vous étiez en terrain hostile.
J'étais en terrain hostile, oui. Et maintenant, j'œuvre politiquement auprès de Florence Parly, ministre des Armées, pour que les choses changent. Parce que ne pas parler aux filles et considérer que la place de Bobonne, c'est à la maison, ce n'est pas être français, c'est faire partie du camp adverse. Ce n'est pas la place que la France donne aux femmes. Donc, c'est une question dont je me suis saisie politiquement et à laquelle je tiens beaucoup.
Et ça a évolué depuis, vous pensez ?
Ça a évolué avec le temps, avec la volonté politique. Déjà, le ministre Le Drian, quand il était ministre de la Défense, a mis en place ce qui s'appelle la cellule Thémis de lutte contre le harcèlement. Et je crois que c'est ce qui a nourri ma foi en l'action politique. C'est que quand on ne peut pas agir de l'intérieur dans le microcosme, il faut qu'il y ait une décision souveraine qui s'impose.
Vous avez eu l'impression, vous, de vivre ce harcèlement lorsque vous étiez à Saint-Cyr ?
C'était peut-être plus pernicieux, puisqu'ils appelaient ça de ces jolis mots d'indifférence courtoise. Donc, est-ce que d'être ignoré, c'est faire preuve de harcèlement ? Avec du recul, puisque ça s'est passé maintenant quasiment 20 ans, je dirais que oui.
Et les choses les plus compliquées que vous ayez vécues auprès de ces hommes-là, c'était quoi ? En dehors du fait qu'ils vous ignoraient, est-ce qu'il y avait des choses beaucoup plus dur, physique, où le traitement n'était pas le même pour vous ?
Ça, je n'y ai pas été confrontée. Dans tous les cas, c'est une école difficile et une formation jalonnée de stage commando, le stage parachutisme, le stage de survie en Guyane. Donc, c'est compliqué qu'on soit une femme ou un homme. Mais devoir prouver jour après jour que j'avais ma place en ne démissionnant pas, en fait, c'est pas acceptable. La formation, même si elle est dure, ne nécessitait pas d'humiliation.
Parce que vous aviez l'impression que pour vous, en tant que femme, il y avait cet obstacle en plus à dépasser.
Oui, cet obstacle à dépasser. Et heureusement, dans les forces, après j'ai fait le choix d'une arme féminisée, l'arme du matériel, et la question d'être chef, homme ou femme, ne se posait pas. En fait, on était reconnus comme tels, puisque les militaires portent leurs galons sur eux. Et jamais je ne me suis posé ensuite la question d'être une femme. J'étais le chef de mes soldats.
C'est-à-dire que tout ça s'arrête à partir du moment où vous avez les barrettes qui commencent à s'afficher sur vos épaules.
Oui, tout ça s'arrête lorsque la formation initiale est terminée. Et en fait, l'actualité... on dit long quand on voit tous les scandales qui se passent avec Sciences Po. Et en fait, c'est assez terrible ce conservatisme des grandes écoles. Et quand j'ai vu ce qui se passait à Sciences Po, j'ai été heureuse de savoir que la parole pouvait se libérer, que la parole des femmes est enfin crédible. Et il y a un gros effort à faire au niveau de l'exemplarité des élites.
C'est ce que vous viviez à Saint-Cyr ?
C'est ce que je vivais à Saint-Cyr, sous l'œil bienveillant de l'encadrement. Je m'exprime peu sur ce sujet, parce qu'il y a toujours cette difficulté où... Enfin, je crois que les femmes sont telles un archipel, et que si on dénonce un jour qu'on a été victime... On n'est plus vu qu'à travers un statut de victime. Je crois qu'à ce moment-là, oui, de ma vie, j'ai été victime de discrimination. Et plutôt que de m'enferrer dedans, il y a cette formule qui dit soit ça nous brise, soit ça nous bronze, comme le fer, et qu'on peut surmonter ces difficultés. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et on peut... s'en nourrir et en créer quelque chose de positif. Et je crois que compatir n'est pas pâtir. Et je m'en nourris dans mes fonctions politiques aujourd'hui.
Et à cette époque-là, vous n'aviez personne à qui pouvoir le dire, même dans les hauts gradés de cette institution ? Ce n'était pas possible ?
Non, quand on est en formation, qu'on a 20 ans, on n'a pas accès... à la hiérarchie. Les choses ont changé aujourd'hui. Ces choses-là peuvent être
dénoncer via les réseaux sociaux, la parole peut s'exprimer différemment, mais on se sentait vraiment recluse, la plupart d'entre nous. Après, on l'a peut-être pas toutes vécu de la même manière, mais je crois que malheureusement, quelques Saint-Syriennes se reconnaîtront dans mon discours, et j'aimerais tellement qu'elles ne se reconnaissent pas. Et il n'y avait pas cet accès direct, et l'idée que dénoncer, c'était comme se ridiculiser, parce que j'ai souvenir qu'avec quatre autres femmes, on l'avait fait remonter à notre chef direct, et il nous avait dit « Vaut mieux être insulté qu'ignoré, ça vous fait exister. » Celle-là, je ne l'ai jamais oubliée. Et dans tous mes rapports humains, je fais toujours en sorte de... Je peux vexer, enfin, j'imagine, mais je fais toujours très très attention à ne pas humilier.
Et est-ce que ces insultes étaient de la même nature entre hommes, où il y avait vraiment... Vous avez eu l'impression qu'il y avait vraiment une différence entre le traitement de ces jeunes femmes à Saint-Cyr et des hommes à Saint-Cyr?
Oui, tout à fait, mais il y avait encore un traitement pire que le nôtre, c'était les garçons qui parlaient aux filles, qui étaient appelés les sous, pour sous-hommes. Donc il y avait quand même une échelle dans le sordide. Tout ça pour une poignée d'ultra-conservateurs qui ont exercé une mainmise.
Et qui pouvaient être gradés?
Alors parfois, malheureusement, oui.
Donc vous avez dû vous surpasser au travers de tous ces stages, montrer que vous étiez aussi forte qu'eux, c'est ça?
Tous les stages, quelque part, on était sur un pied d'égalité, puisqu'il y avait des barèmes, des obstacles physiques à franchir, ou comme pour le saut en parachute, il fallait bien franchir la porte de l'avion. Donc là, il y avait égalité de traitement, on participait tous au même stage de survie. Donc non, la question ne se posait pas à ce moment-là.
Et est-ce que c'est comme ça qu'on arrivait finalement à se faire respecter à travers ces stages où on était tous au même niveau, à égalité? Vous racontez dans votre livre que vous partez avec votre pelle sur le dos pour aller creuser votre petite cabane pour dormir durant 3 jours dans l'humidité en attendant l'ennemi. Est-ce que c'était ça les stages de survie?
Oh, ça c'était ce qu'on appelle les classes. En fait, pendant les premiers mois, quand on s'engage à l'armée, on a un entraînement physique et moral plutôt costaud. Et il y a une formule qui vaut ce qu'elle vaut, entraînement difficile, guerre facile. Je crois que la guerre n'est jamais facile.
Donc ça a été très dur pour vous, cet apprentissage-là. Après, vous avez fait aussi les chasseurs alpins, donc d'autres stages. Vous avez fait un stage aussi en Guyane, dont vous parlez dans votre livre. C'est un peu le parcours du combattant, quand même.
Oui, c'est bien résumé. Des fois, je fais la plaisanterie. Vous savez, l'expression consacrée, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour... Mais effectivement, il ne s'agit pas juste d'y entrer, il faut encore en sortir. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, j'en rêvais. Moi, je rêvais du stage de survie en Guyane, de sauter en parachute, de partir à l'aventure. Bon, des fois, il faut se méfier de ce dont on rêve, on risque de l'obtenir. Mais oui, j'avais envie de le vivre. Et il y a des choses, heureusement, qu'on les a vécues à 20 ans, parce qu'à 40, on n'en a plus du tout envie.
Vous ne le referiez pas?
Sauter en parachute, pourquoi pas, mais le stage de survie en Guyane, je passe mon tour.
Qu'est-ce qui était le plus dur en Guyane, par exemple?
Physiquement, c'était très dur et la nature était tellement hostile. Tout le temps, en fait, il pleuvait tout le temps. Et donc, le sol était boueux, et dès qu'on glissait, si on voulait se raccrocher à une branche, en fait, les branches avaient des épines grand comme une main. Et si on arrêtait de marcher une minute, il y avait les fourmis rouges qui envahissaient votre pantalon. Ah, c'était tout était contre nous. Hein. C'était à peu près, pas tout à fait les 15 pires jours de ma vie, mais... physiquement et moralement, ça a été une épreuve pour nous tous. J'ai eu le sentiment de trouver mes limites en Guyane parce que la fatigue, la faim, la soif, le climat, le temps. Mais j'étais en quelque sorte venue chercher cela, oui.
Et pour quelle raison vous cherchiez ça?
C'est une bonne question. Déjà, pour moi, fille de commerçant, faire Saint-Cyr, c'était comme inatteignable de faire une grande école militaire, moi qui n'étais pas du milieu. L'envie de se dépasser et pourtant, oui, j'ai été admise dans des grandes écoles de commerce, mais ça ne me faisait pas rêver. J'avais envie d'un mélange de service de mon pays, d'aventure, d'intellect, de commandement. J'ai trouvé ce que j'étais venue chercher.
Vous avez commandé ensuite une brigade franco-allemande. Vous avez fait des missions au Liban, en Côte d'Ivoire. Alors là, qu'est-ce que vous en avez retiré de ces missions-là et de ce commandement-là où vous avez commandé, là, pour le coup, 200 hommes ?
Alors, je suis partie en opération extérieure deux fois lorsque j'étais lieutenant, donc en Côte d'Ivoire, puis au Liban, donc avec ma section, donc une trentaine de soldats. Et c'est le cœur même de la mission de militaire. En fait, on ne s'engage pas pour rester au quartier et ne faire que s'entraîner. Il y a une finalité opérationnelle et généralement, on est toujours content, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est important quand son unité est sollicitée pour partir en mission. Et c'est en Côte d'Ivoire que je me suis le plus intéressée aux questions régaliennes, parce que l'on peut voir que quand l'État se délite, quand il n'assure plus la sécurité, mais en fait, c'est un château de cartes et tout s'écroule. Alors que ce pays était une perle. D'ailleurs, les bronzés ont été tournés là-bas. Donc, pour montrer vraiment la vitesse à laquelle un pays peut s'effondrer. Et c'est à ce moment-là que mon engagement militaire a davantage pris en quelque sorte une dimension politique, une interrogation sur la place de l'État. Et de la même manière, le Liban, qui est un pays extraordinaire de par son histoire, sa culture, sa gastronomie, de voir ce pays morcelé aux prises avec le Hezbollah, avec la nécessité d'une force onusienne qui s'installe dans la durée. Donc ça a été des expériences très marquantes. Et ensuite, en effet, donc, j'ai commandé une compagnie de la brigade franco-allemande, 200 soldats, 130 Allemands et 70 Français. Et je le voyais comme l'embryon de la défense européenne. Et c'est la compagnie que je voulais absolument commander. On a rarement cette chance. Et ça me tenait à cœur parce que ça me permettait de toucher à l'international et au travail en commun.
Et qu'est-ce qui vous a fait basculer, puisque vous étiez arrivé finalement à ce que vous souhaitiez? Qu'est-ce qui vous fait basculer du côté de la politique?
Je crois que c'est assez rare que les bascules se fassent de façon brutale. En fait, j'aurais jamais eu l'idée de candidater à l'investiture pour La République En Marche si ça n'avait pas été un travail de longue haleine. L'idée a germé, mais vraiment germé, quand je commandais ma compagnie en Allemagne, puisque j'avais trois communes jumelées, Vittel en France et deux villes thermales allemandes, Badenweiler et Schlingen. Et je me suis interrogée sur le lien armée-nation. Je trouve que c'est une erreur des termes, puisque l'armée est une émanation de la nation. Donc devoir créer un lien, ça me semblait vraiment une erreur. Donc j'ai beaucoup interrogé ce lien, la place du militaire dans la cité. Et quand je suis arrivée à Saumur, donc mutée avec mon mari et ma fille à l'époque, j'ai voulu être conseillère municipale, justement, pour poursuivre cette démarche d'intégration du militaire dans la vie de la cité. Là, j'ai découvert que mon statut me l'interdisait, puisque si j'étais élue, j'étais détachée de droit sans solde. Donc c'est une interdiction de fait, puisque j'ai besoin de mon salaire pour vivre. Et j'ai travaillé en interne avec le conseil de la fonction militaire terre, donc des représentants des forces armées, pour faire évoluer notre statut général des militaires, pour qu'on ait davantage notre place, notre visibilité au sein de la société. Donc ça a été très progressif, et quand Emmanuel Macron, puisque je suis passionnée de politique, a fait un appel pour les investitures législatives, ça n'a pas fait un pli, j'ai su que j'étais prête, de par mon expérience de commandement, d'état-major, mon expérience internationale et les valeurs qui m'animent. J'ai pas hésité, j'ai rempli ma feuille de candidature en une soirée et je suis partie un mois en Norvège pour un exercice de l'OTAN.
Et pourquoi Emmanuel Macron ?
Depuis longtemps, j'avais le sentiment que les fractures politiques n'étaient plus là où elles se trouvaient, entre la gauche et la droite. Par exemple, moi j'étais plutôt naturellement de sensibilité de droite pour l'incarnation du régalien, parce que ça, je l'ai vécu sur le terrain, comme je disais, que si l'État n'assure pas la sécurité de ses concitoyens, c'est un château de cartes qui s'effondre. Et année après année, j'ai vu le mal que la droite avait fait aux forces armées. Parce que si dans votre quotidien, un changement de grille de la CAF vous affecte, que les armées aient plus 0,3 points de PIB en plus ou en moins, ça affecte pas votre quotidien de Français. Et j'ai considéré que la droite n'avait pas honoré son pacte social. Et j'ai considéré qu'Emmanuel Macron avait raison, que les lignes de fracture avaient changé. Et j'ai complètement adhéré au programme qu'il proposait.
Donc le 18 juin, ça ne s'invente pas. Vous devenez députée à 36 ans. Comment vous avez fait campagne ? Alors avec peu de moyens, là aussi, j'ai lu dans votre livre que vous ne vouliez pas de local de campagne. Vous avez fait le camping-car tour de Laetitia.
En fait, j'aime pas ce qui enferme. J'aime me sentir libre et je trouve qu'avoir un point fixe, c'est une mission militaire d'ailleurs, fixée. Fixer, c'est empêcher de se mouvoir, par définition. Et je voulais me sentir libre d'aller dans le dernier, dans la dernière exploitation agricole de mon plus petit village. Je voulais me sentir libre, réactive tout le temps. Donc j'ai fait campagne avec les moyens du bord, avec un vieux camping-car. Et j'ai fait le tour de toute ma circonscription avec quelques militants pour avoir une vue d'ensemble du terrain que je serais amenée à représenter avec les enjeux agricoles, viticoles, associatifs, institutionnels, économiques, pour avoir une vue globale en très peu de temps, puisque nous avons eu un mois pour faire campagne à compter du moment de l'investiture. Mais j'avais mon plan en tête. Je savais comment je voulais mener ma campagne, quelle image je voulais renvoyer de l'élu que je deviendrais, et avec justesse de ton. Je me suis dit, et c'était un peu comme la commission d'investiture, je me suis dit, si je suis investie ou élue, je veux que ce soit moi, pas une représentation, un ersatz, avec mes qualités, mes défauts, en expliquant clairement que j'avais des jeunes enfants et que je ne conduirais pas mon mandat comme un homme du 19e siècle. Vraiment, j'ai d'emblée mes cartes sur table.
Vous aviez un plan stratégique. Vous parlez de la MEDO. Alors, c'est quoi la MEDO ?
C'est la méthode d'élaboration des décisions opérationnelles. En fait, à l'armée, on est très doué pour faire des plans. Bon, même si, avec humour, on le dit souvent, le premier mort d'une guerre, c'est le plan. Mais on planifie tout et je pense que c'est important. Et d'ailleurs, j'avais déjà soufflé à Édouard Philippe qu'il fallait un ministre au plan parce qu'on a besoin d'une vision et qu'on ne peut pas être guidé par les sondages. Et j'avais estimé qu'il fallait absolument que je quadrille le terrain parce que j'étais complètement inconnue, sauf dans mon village de 500 habitants et le rez-de-chaussée des écoles militaires de Saumur. Qu'il fallait que je rencontre tout un panel de structures différentes, qu'il fallait jamais qu'on soit plus de trois au même endroit pour occuper le terrain. C'est le terrain qui commande, c'est la règle de base. Je crois qu'à Paris, on l'oublie un peu trop souvent.
Dites dans votre livre, alors que le petit monde de l'entre-soi me voyait à 2%, et parfois ils ajoutaient, oh là là, la pauvre fille, elle ne va pas y arriver. Vous en sortez quand même très bien.
Oui, on me voit jamais arriver, mais j'ai été considérée comme l'outsider, enfin, la femme jeune qui, et ça m'a été dit, avec, vous savez, le petit mime, qui ne voit que les choses par le petit bout de la lorgnette. Je me suis dit qu'à cela ne tienne, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je savais que j'étais prête. Mais j'ai jamais autant été sûre de moi que le jour où je me suis lancée en politique.
Et là encore, ça venait plus facilement des hommes, ces remarques-là, ou pas ? Parce que je sais que vous avez fait une cartographie de la misogynie aussi.
Ma cartographie de la misogynie. Sans oublier que la majorité des hommes sont des hommes bien. Mais effectivement, l'entre-soi est plutôt masculin, encore.
Et donc, votre cartographie de la misogynie,
ah,
c'est quoi ?
Alors ça a été un travail de dentelle. Parce qu'en fait, quand vous répondez de façon disproportionnée à quelque chose que vous ressentez comme une attaque, vous passez tout de suite pour hystérique. Vous savez pas vous tenir, vous vous énervez pour un rien. Donc je me suis fait ma cartographie de la misogynie, ma pyramide, avec tout en haut le misanthrope, qui n'aime personne, le misogyne, le macho, le séducteur, le relou, et le paternaliste, et bien sûr tous les gens bien qui peuvent aussi commettre des impairs. Et un dernier exemple en date, je présidais les débats. Un de mes collègues communistes, avec qui je m'entends bien par ailleurs, me dit « Madame la Présidente, comme je vous trouve bien gentille, je vais parler très peu. » Là, je reprends la parole et j'ai ma grille de lecture. Je me dis « Bon, je ne peux pas lui voler dans les plumes parce que je l'aime bien. » Et puis, il me dit que je suis bien gentille, ce n'est pas non plus une agression. Mais il n'empêche que je ne peux pas trop laisser passer. Donc, je le mets dans la case paternaliste et je réponds « Mon cher collègue, sachez que moi aussi, je vous trouve bien gentille. »
Donc, vous avez comme ça votre petite cartographie qui vous suit tout le temps quand vous êtes au perchoir.
Voilà, qui me suit tout le temps parce que c'est aux femmes à qui l'on demande d'avoir du discernement. Je ne pouvais pas juste m'énerver à lui dire « Écoute, pour qui tu te prends, est-ce que tu aurais sorti un truc pareil à Richard Ferrand, le président ?»« Non, tu ne l'aurais pas fait. Pourquoi tu me dis que je suis bien gentille ?» Et là, je serais passée pour agressive, énervée... Qu'avec ma petite cartographie, je suis bon, case paternaliste, je réponds de façon proportionnée. Mais c'est très important la proportionnalité, mais on nous l'apprend à l'armée. La réponse graduée, ça s'appelle.
Cela dit, vous pouvez aussi reprendre vos homologues féminines, puisque vous avez aussi repris quand même une ministre sur sa ponctualité. Alors ça aussi, ça vient de l'armée.
Ça vient de l'armée, mais... En fait, la ponctualité, c'était à peine le sujet. C'est qu'il y avait eu dans la semaine un différend entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, que les députés étaient un peu tendus. Et en fait, j'ai estimé que l'institution que j'incarnais méritait davantage de respect que ce manque de ponctualité. Donc finalement, l'enjeu de la ponctualité, c'est qu'une infime partie de ce moment qu'on a vécu dans l'hémicycle... Et de le rappeler, c'était en fait un rapport de force entre l'exécutif et le législatif. Et c'était rappeler la place du Parlement envers le gouvernement. C'était surtout ça l'enjeu.
Donc et, vous avez recadré Marlène Schiappa.
Oui. Mais il n'y a pas de sujet, on s'entend bien.
C'était en décembre 2020 et vous lui avez dit, moi, on m'a formée pour apprendre, même quand on est en avance, on est déjà en retard.
Bon, en plus, j'ai réussi à faire rire. Et rappeler le cadre et faire rigoler, ce n'est pas évident. Dans ma formation, on m'a appris qu'être à l'heure, c'était déjà être en retard.
Alors, justement, comment arrive-t-on, quand on est une novice en politique, à devenir vice-présidente de l'Assemblée nationale? Bon, au départ, vous êtes présidente aussi de la Commission des Affaires étrangères, mais au-delà de ça, vous êtes amenée à mener les débats dans l'hémicycle.
Tout à fait. Alors, nous sommes arrivés en juin 2017, Richard Ferrand, qui était président du groupe à l'époque, m'a demandé d'être whip de la Commission aux Affaires étrangères. C'est un terme que j'avais jamais entendu. Ça veut dire fouet en anglais. Ça vient de nos amis outre-Manche. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai jamais fait de politique. Et tu veux me donner un rôle politique? En quoi ça consiste? Il m'a dit, bah, écoute, il faut faire en sorte que tout le monde se sente bien. Que tout le monde adhère à la ligne politique. Et il me donne 4-5 éléments comme ça. Et là, je me suis... « Ah, ok, lieutenant-chef de section. Oh, d'accord, bah, compte sur moi.
» Donc là, la méthode, pareil.
Là, la méthode où la base, c'est toujours l'humain. Mais même si on traite Et ça, c'est peut-être ce qu'on apporte, ce que j'apporte en tant que femme. Même quand on traite d'enjeux stratégiques, il ne faut jamais oublier la part d'humanité. Et j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai commencé par avoir un entretien d'une demi-heure avec chacun de mes collègues que j'aurais donc coordonné, donc 40 collègues, pour savoir qui ils étaient, ce qu'ils attendaient, ce qui les intéressait en termes d'affaires étrangères. Donc, j'ai fait mes preuves dans ce rôle managérial. C'est un métier, hein, je crois que ça s'apprend. Et je me suis présentée à notre élection interne à la vice-présidence, puisqu'à mi-mandat, on a remis tous les postes clés en jeu. Et j'ai été élue par mes pairs, qui m'ont fait confiance. Ils m'ont dit « Oh, c'est bon, toi, Laetitia, tu sauras tenir la séance. » Et donc, je suis vice-présidente. Et comme on a tous une délégation en charge des affaires internationales de l'Assemblée nationale. Et Richard Ferrand vient de me confier les enjeux parlementaires de la présidence française de l'Union européenne 2022.
Donc une casquette supplémentaire. Vous allez aller jusqu'où comme ça, Laetitia Saint-Paul ?
Ben déjà, je suis là avec mes toiles de maître où je n'aurais jamais pu imaginer être. Et je suis quelqu'un qui ne cherche pas midi à 14h. J'adore ce que je fais. J'adore faire interagir le local, le national, l'international, toucher à tout. Avant cet entretien, j'ai déjeuné avec des surveillants de la prison de la santé. J'ai l'impression que mon champ d'action est infini. Et moi, ce qu'il faut me souhaiter, c'est que rien ne change.
Ça veut dire continuer en politique ?
Oui, tout à fait. Je me représenterai en tant que députée en juin 2022.
Comment vous arrivez à vous dire finalement la politique et l'armée, c'est un peu la même chose alors que c'est quand même pas les mêmes valeurs?
Eh bien, détrompez-vous. C'est malheureux, mais qu'est-ce qui ressort dans l'actualité? Les scandales politico-judiciaires. Enfin, c'est ce qui ressort. Mais dans mes fonctions électives, je rencontre vraiment énormément de gens bien, que ce soit dans mes collègues députés, les élus locaux, les maires avec qui je travaille régulièrement, puisque j'ai 86 petites communes dans ma circonscription. Donc j'ai beaucoup d'interactions avec les élus locaux. Et beaucoup de valeurs nous sont communes, enfin, le bien commun. Et moi, je regrette que ce soit tellement caricaturé par rapport au monde politique. Je sais que le taux de confiance des Français envers les députés est à peu près 20%.
Et que 80% pour l'armée.
80% pour l'armée. Et je le déplore parce que il y a toujours les valeurs donc de bien commun, de collectif, de place de la France dans le monde. Et il ne faut pas caricaturer les intentions des élus.
Vous vous y retrouvez ?
Ah, moi, je m'y retrouve complètement. Et puis, ce qui me manquait à l'armée, je l'ai amené avec moi en politique.
Est-ce que vous avez déjà été en contradiction avec les décisions de votre groupe, du président de la République, notamment peut-être en juillet 2017, lorsque le général de Villiers démissionne ? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, je suis prise entre deux feux et contactée par beaucoup de médias. Moi qui viens de la grande muette et qui n'ai pas une grande appétence, et plutôt ni appétence ni connaissance en fait du milieu médiatique, je me dis que je rêve d'être sur la touche à ce moment-là. Et c'est ce que je fais toujours en fait quand je suis face à une difficulté, j'essaie toujours de la dézoomer. Donc à l'instant T, effectivement, il y avait un litige entre deux personnes très haut placées sur le budget des armées.
Mais ça devait vous toucher, vous, en tant que...
Moi, ça me touchait, et justement, donc, la baisse du budget des armées était à ce moment-là très conjoncturelle, puisque dans le projet politique qui m'a fait élire, il y avait l'objectif de 2% du PIB pour les armées. Et donc, c'est ce que j'ai dit, c'est que cette baisse était très conjoncturelle, mais que je portais avec Emmanuel Macron l'ambition politique de porter le budget des armées à 2% et que je veillerais au grain année après année de mon mandat. Et donc, on s'est rencontrés avec Florence Parly et j'ai refait un point d'étape avec elle au mois de janvier.
Vous dites à ce moment-là, en juillet 2017, lorsque le général de Villiers démissionne, là, j'étais confrontée à la LEM.
Alors, c'est quoi la LEM? Ah, c'est la loi d'emmerdement maximum. C'est que vous êtes là où vous aimeriez mieux ne pas être.
Est-ce que vous vous êtes retrouvé confronté à cette LEM durant ces 4 années que vous venez de passer comme députée ?
Ah, la LEM, ça a été aussi les enjeux de loi bioéthique. Donc ça, ça a été aussi pour moi compliqué parce que... Mais peut-être que j'ai beaucoup trop voyagé dans les côtés sombres de l'âme humaine. Mais je crois vraiment que la science n'avance pas au même rythme que notre âme. Et je vais être à nouveau confrontée à cette LEM, puisque dans 10 jours, va se poser les questions de voter une loi pour ou contre l'euthanasie. Donc quand ce sont des grands enjeux que je vis comme civilisationnels, d'essence humaine... Et de manière générale, les lois sociétales, je suis toujours très mal à l'aise. Donc j'oscille entre une abstention revendiquée, donc en appuyant sur le bouton de l'abstention, et le vote contre. Et moi, je considère que élu, ça durera le temps que ça durera. Me regarder dans une glace, c'est jusqu'à la fin de mes jours. Donc
vous pouvez être en désaccord.
Ah, bien sûr que je peux être en désaccord.
Et le faire savoir.
Et le faire savoir.
Alors, sur cette crise sanitaire, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les décisions qui sont prises ou est-ce que certaines vous dépassent ou vous vous dites « je n'aurais pas fait ça à ce moment-là » ou est-ce que la LEM intervient là aussi ?
J'ai pas pour habitude de faire de la prospective du passé parce que j'ai été formée à l'idée que le premier mort d'une guerre, c'est le plan et que... Là, on peut dire que la LEM, c'est surajouté en couches successives. Et on le voit aujourd'hui avec les variants. Et ce qui est certain, c'est que je n'aurais peut-être pas donné cette primauté aux scientifiques. Parce que je crois vraiment que le rôle du politique, c'est de faire de la synthèse de tous les avis que l'on peut entendre. Donc pour moi, là, aujourd'hui... Nous devons faire la synthèse entre, évidemment, les scientifiques, les médecins, mais aussi les statistiques sur les violences conjugales, les statistiques sur les déficits scolaires, sur les autres maladies qui ne sont pas traitées, les enjeux internationaux, parce que nos décisions de pays dits pays riches font que le travail des enfants a doublé dans le monde. Font que le taux de pauvreté a augmenté, je crois, d'un tiers en Afrique. Enfin, je vois tous les dommages collatéraux. Et pour moi, le point de vue scientifique est évidemment un point de vue à prendre en compte, mais il ne doit pas avoir la primauté.
Et vous estimez qu'il a eu cette primauté et que le président écoute trop les scientifiques ?
Alors, je... À titre personnel, je me serais passée de créer une structure, une nouvelle structure type conseil scientifique. Enfin, en fait, je n'aurais pas surajouté les structures. Je pense qu'on a quand même un arsenal. L'arsenal de voies décisionnaires me semble suffisant.
Et sur la gestion alors de la vaccination, là aussi, parfois, les décisions, elles ne sont pas... forcément compréhensible par le grand public. Aujourd'hui, on nous parle de vaccinodrome, alors qu'il y a quelques semaines encore, on ne voulait pas en entendre parler. Est-ce que vous pensez que si un militaire avait géré cette crise, il l'aurait géré différemment ?
Il ne l'aurait pas forcément géré différemment. Moi qui viens de la logistique, alors là, le vaccin, c'est la LEM ultime. Vous avez...
Donc, la loi de l'emmerdement maximum ultime.
Oui, vous avez 3 vaccins différents d'importation qui n'ont pas le même public cible, qui n'ont pas les mêmes effets secondaires, qui n'ont pas forcément le même nombre de doses, qui n'ont pas donc les mêmes critères qualitatifs, on a vu avec AstraZeneca, qui n'ont pas le même mode de stockage et conservation, et qu'il faut faire parvenir dans les plus brefs délais, au plus près de la population, c'est un vrai enfer logistique. Et honnêtement, enfin, je crois que des fois, enfin, c'est facile de tout critiquer, mais je crois que c'était pas facile de faire beaucoup mieux. Et là, j'adhère complètement à l'idée de vaccinodrome, parce que forcément, si on a un vaccinodrome, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la dernière personne. Ce sont les gens qui se regroupent dans des grands pôles logistiques.
Vous l'auriez fait plus tôt, peut-être ?
Alors, je n'ai pas été consultée, mais en fait, le faire plus tôt, sachant, oui, dans la LEM aussi, qu'il y a une pénurie du produit. Donc, en fait, créer d'énormes centres, s'il y a 4 vaccins à distribuer...
Mais la pénurie par manque d'anticipation.
Un vaccin créé en un an, c'est historique. Donc la pénurie, pas par manque d'anticipation, par manque d'existence du produit.
Mais d'autres l'avaient. D'autres pays l'avaient, vaccin.
Les pays qui l'avaient sont les pays qui l'ont produit. Et on en revient toujours aux enjeux du plan. En fait, et moi je me réjouis de cette création de haut commissaire au plan, justement, parce que les pays qui avaient le vaccin en dose suffisante, bah, sont ceux qui l'ont produit.
Comment vous arrivez à gérer votre vie à Paris, à l'Assemblée nationale, et votre vie dans le Saumurois, dans votre circonscription, avec vos enfants, votre mari qui est militaire également ?
Une organisation quasi militaire.
On n'en sort pas.
Alors, avec des règles simples, et je crois en la simplicité, le week-end... Bon, là, hors Covid, je n'accepte que des manifestations familles compatibles. La semaine, quand je ne suis pas à Paris, mon équipe a l'interdiction de mettre des rendez-vous qui me privent d'accompagner les enfants à l'école et de revenir les chercher le soir à l'école. Et tout est organisé pour que tout soit extrêmement concentré quand je suis à Paris. Un peu pour y passer le moins de temps possible. Donc, quand je suis à Paris, j'enchaîne les rendez-vous, les déjeuners, les perchoirs. Parce que enfin, ma vie, elle est dans mon village, auprès de ma famille. Et puis, ma circonscription, elle n'est pas organisée à Paris. Bon, la preuve, c'est peut-être pour ça que je suis si peu médiatisée, parce qu'il faut toujours être réactif en deux temps, trois mouvements. Et voilà, j'ai par exemple œuvré à ce qu'on réorganise nos créneaux de perchoir entre vice-présidents, justement pour qu'on soit... plutôt focalisé sur un texte, quitte à... C'est assez dur, hein, les présidences, c'est physique. Mais j'ai proposé que suivre un texte de A à Z, ça permet de mieux connaître les collègues qui sont présents, mieux connaître le sujet, et d'avoir une présence active et concentrée.
Donc vous avez mis tout le monde au pas.
J'ai fait valoir mes arguments qui ont fait mouche, comme quoi...
Donc, votre vie est entre Paris et Saumur. Vous avez dit « Personne ne m'identifie comme une menace, c'est ma force ». Jusqu'où allez-vous aller, Laetitia Saint-Paul ?
Je suis bien là où je suis.
Vous avez d'autres ambitions ?
Mais pas nécessairement. Enfin, je suis seulement vice-présidente de l'Assemblée nationale depuis 2 ans. Enfin, moi, je viens d'un système très hiérarchique. Enfin, à l'armée, on gravit chaque échelon un par un. On est sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant.
Enfin, vous êtes arrêté capitaine.
Voilà. En fait, c'est très normé et il y a des bienfaits. Déjà, on n'est pas d'emblée général, si je puis dire. Et qu'est-ce que ça manque ? Par exemple, les jeunes qui sont à Bercy, s'ils pouvaient faire un an en PME... Je pense que la France serait mieux gouvernée. Et je crois aux vertus du temps long. Et là, je suis vice-présidente depuis 2 ans. Je n'ai pas le sentiment du tout d'avoir fait le tour de mes fonctions, de tous les enjeux politiques, diplomatiques, puisque telles sont mes fonctions en tant que responsable des affaires internationales. Donc j'ai le sentiment d'avoir encore beaucoup à apprendre là où je suis. Donc je ne suis pas quelqu'un de pressé et je sais avancer pas à pas et ça me semble primordial.
Vous avez eu des modèles quand vous étiez plus jeune ? Laetitia Saint-Paul.
Alors, j'ai eu du mal à trouver des modèles, et c'est pour ça que j'ai fait cet effort qui m'a beaucoup coûté de témoigner quand j'ai été sollicitée par J.C. Lattès. Avant d'avoir comme modèle Simone Veil et Madame Aigle, la première femme pilote de chasse française, je les ai puisées dans la littérature. Alors, Antigone de Anouilh a été une lecture importante pour la collégienne que j'étais. Et elle est devenue un modèle pour moi, que j'ai lâché après. Je crois que je suis plus accrochée à la vie qu'elle. Et je trouve que c'est un vrai problème, et je vous félicite pour ce que vous faites, parce qu'on a tous besoin de nourrir notre imaginaire. Et j'ai souffert de cette absence de modèle. Je voyais mes camarades de promotion qui avaient comme modèle Leclerc de Haute-Cloque, le général de Gaulle ou leur père. Et je sais que ça m'a manqué, et j'ai dû les puiser dans la littérature, alors que je crois qu'on a tous besoin de modèles en chair et en os.
Une de vos devises, c'est de dire, pour faire des choses en grand, il faut savoir désobéir. Ah. C'est du maréchal Leclerc. À quel moment vous désobéissez ?
Alors, j'ai un petit peu joué avec les lignes, puisque les militaires donc, n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique. Donc, en adhérant à En Marche, je suis partie du principe que c'était pas un parti, c'était un mouvement, puisqu'il n'y avait pas encore d'élus. Donc, j'ai un petit peu joué avec les lignes à ce moment-là.
Et aujourd'hui, ça vous arrive encore de désobéir ?
Alors, ce qui est certain, et c'est constitutionnel, la liberté d'un député est totale et absolue. Et je conduis mon mandat sous le signe de la liberté. Et en fait, je suis quelqu'un de loyal, mais en fait, mis à part le pire des patrons du monde, le peuple français, je n'ai pas de chef. Donc, il n'est pas question d'obéir ou de désobéir.
Vous ne considérez pas le président de la République comme votre chef ?
Ah non, mais je suis très attachée à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Je me sens un devoir de loyauté envers lui, mais je ne le vois pas comme mon chef.
Merci, Laetitia Saint-Paul, pour cet entretien.
Merci à vous et de faire vivre les femmes et trouver des modèles pour nos jeunes.
Vous en serez un, certainement. Pour les petites filles. Merci à vous.
Merci.
Merci à David Führer pour la réalisation et à Jean-François Montpas pour le mixage de ce podcast. Si vous l'avez apprécié, surtout n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Le podcast Experte à la Une est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Je compte sur vous.